Voici le second pôle, la seconde lumière de Noël, l'épiphanie. Et on retient facilement, parce que c'est le moment des galettes, les galettes des rois. Et là, c'est un cadeau là, qu'on reçoit si on gagne la fève représentée normalement par l'enfant Jésus avant que Coca-Cola ne s'en mêle. Les mages sont dans ce passage le symbole de l'aspiration de tous les hommes. C'est pourquoi l'Église célèbre la convergence des nations en son sein, la conversion des païens. Certes, elle s'est faite progressivement, mais réellement, et depuis le commencement du christianisme, et elle n'a pas cessé de se développer sans jamais embrasser complètement toute l'humanité. Mais peu importe, ce qui compte, c'est vraiment que ça va au-delà du quantitatif, du nombre de croyants dans le monde, même si le christianisme est la religion la plus grande, avec le plus grand nombre de fidèles. Mais malgré tout, ce qui compte, c'est l'aspect symbolique qualitatif. À travers les païens, c'est le désir des païens que vise ce texte et que l'Église reconnaît. Les mages sont des païens, ce n'est pas des Israélites. Ils viennent de l'Orient, on ne sait pas d'où exactement, mais peu importe. On a entendu dans la Bible parler des mages qui, à Babylone, remplissent le rôle de conseillers du roi. Donc ce sont des sages. Et on sait aussi qu'ils scrutent les étoiles, et c'est par ce biais-là que le Seigneur les attire. Ils représentent donc vraiment l'aspiration du monde païen dont ils sont l'expression culturelle, en quelque sorte, les mages. C'est l'aspiration à Dieu, l'aspiration à la vérité, l'aspiration à l'amour. Ils ont reçu ce message, donc on va dire qu'en tant que mages, ils cultivaient cette aspiration, et sans pouvoir donner une solution, une réponse satisfaisante à leur inclination. Et l'étoile est apparue. Cette étoile, puisqu'ils regardaient vers le ciel, qui était fermé pour eux, d'un seul coup, il ne s'est pas ouvert le ciel, mais quelque chose, un signe est apparu. Et ils se sont mis en route. Et c'est ça qui est important, ils auraient pu voir le signe et puis s'arrêter là, comme le font beaucoup d'hommes en ce monde. Dieu envoie des signes à chacun d'entre nous, à tous les hommes, pas seulement aux croyants, mais aux incroyants, sinon il n'y aurait jamais de conversion. Mais beaucoup restent chez eux, dans leur vie, dans leurs valeurs, sans bouger. Ils ont constaté, oui, qu'il y a quelque chose de spécial. Et puis, c'est la parabole, vous savez, de la semence qui tombe au bord du chemin. Les soucis du monde, ou une ferveur sans profondeur, etc., etc. Les mages, eux, nous donnent, sont la quintessence de ce monde païen qui attend Dieu. Ils se mettent en route. C'est ça qui les distingue des autres. Et c'est pourquoi ils sont intéressants. Et ils constatent que l'étoile les pousse vers le Messie des Juifs. C'est cette direction-là. Ce n'est pas seulement un voyage matériel, bien évidemment, il est religieux. Et les mages sont des hommes religieux par excellence. Ils étaient responsables de la religion à Babylone, et de même en Égypte, les mages du Pharaon. Et ils comprennent que leur religion, leur culte, à travers les grandes forces de la nature ou la sublimation de l'humanité et de certains hommes, ne correspond à rien, en tout cas n'apporte rien de nouveau dans la vie. Ce qui apporte du nouveau, c'est seulement la vérité. Et voilà que la vérité, brillant sous la forme d'une étoile, se met à luire au-dessus d'un livre très particulier qui s'appelle la Bible. Alors ils se rendent à Jérusalem, c'est le lieu où on trouve ce livre dans l'Antiquité. Et là, eh bien, ils se font préciser le lieu où devait naître l'enfant. La date, ils la possèdent. La date, c'est le moment où ils se sont mis en route. Un voyage de 9 mois, comme pour la Vierge Marie. Et ils attendent maintenant la révélation par le livre. Les commentateurs n'étant que des lecteurs du livre. La réponse de la part du livre pour connaître le lieu où se rendre exactement. Donc la première étape, c'est se mettre en route, ouvrir le livre. Et quand on ouvre le livre, eh bien, on a encore un bout de chemin à faire, mais on arrive jusqu'au nouveau-né qui est Dieu lui-même et qui brille sous nos yeux. L'astre indique aussi l'idée d'un Dieu vivant. Ils virent un nouvel astre se lever à l'Orient. Dans un monde antique qui considère que les astres étaient immobiles, ils avaient toujours la même place. Ils n'imaginaient pas ce grand mouvement des astres dans le cosmos. Un astre qui, lui, apparaît brusquement et est en mouvement, c'est le symbole de la vie au milieu même des vivants au sens mythique du terme, puisque les astres étaient vénérés comme des divinités. Ce nouvel astre était plus fort que les autres. Donc, il indique un Dieu vivant et pas seulement une idole morte. Toutes les valeurs du monde sont des idoles mortes. Nous voyons les gens se prosterner devant des valeurs ou des objets ou des modes de vie qui symbolisent certaines valeurs qui sont complètement vides de sens, vides de fécondité, qui n'apportent rien. Voilà un monde qui gît dans les ténèbres de l'idolâtrie. C'était celle des mages, mais les mages, eux, en sont sortis. Et leur périple, eh bien, ils repartiront, comme dit le texte, par un autre chemin, certes pour tromper Hérode, pour tromper tous les gens du monde, mais aussi cet autre chemin veut dire qu'ils ne reviennent pas complètement sur leurs pas. Ils sont changés et transformés, ils ont la foi. La foi en quoi ? Qu'est-ce que l'astre leur montre et le nouveau-né leur montre? La foi en un Dieu créateur. Ça, c'est le grand passage pour amener les incroyants jusqu'à la foi, la création. Et l'astre, c'est l'expression même de la création qui est entre les mains de Dieu, la contemplation du cosmos. Le créateur est supérieur aux forces de l'univers. C'est ce qu'ils découvrent, parce qu'il y a ce message qui leur est adressé et que Dieu fait un grand miracle en leur envoyant ce message-là. Alors ils viennent apporter des présents, ils ne viennent pas les mains vides. Mais outre, les éléments matériels, l'or, la myrrhe et l'encens, ils symbolisent ces éléments-là des cadeaux intérieurs que les mages sont venus faire pour rendre un culte à ce Dieu. Il s'agit des trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Oui, la foi, c'est ce qui les a mus. Ils se sont mis en route. En prenant cette décision de mise en route, c'est la décision de la foi. Mais on voit que la foi, ce n'est pas d'abord recevoir la révélation complète. Il a fallu qu'ils cheminent. Et c'est seulement lorsqu'ils se trouvent à Bethléem, devant l'enfant, bien que ces vertus théologales peuvent s'exprimer, jaillir de leur cœur, de leur âme, et devenir de véritables présents au Fils de Dieu. L'étoile, elle est le symbole de l'Esprit Saint. Elle est le symbole d'une main invisible et divine qui conduit les mages à travers leur chemin. L'Orient, c'était certes la patrie de l'Éden, mais l'Éden était fermé depuis le commencement du monde, et l'Orient s'était devenu un monde opaque, un monde infécond. Et de l'Orient, eh bien, ces mages, de ce monde devenu infécond spirituellement, eh bien, se met en route du côté opposé, vers la Palestine, mais qui est à l'ouest par rapport à eux. L'Esprit Saint leur fait prendre une route qui n'est pas ordinaire. S'ils étaient restés dans leurs valeurs, ils seraient restés dans leur suffisance et leur orgueil. Vous voyez souvent certains intellectuels chinois accrochés à leur civilisation comme si c'était sorti de la cuisse de Jupiter, même s'ils ne croient pas en Jupiter. Mais la religion du Fils du Ciel, mais ce n'est pas celle du Fils de l'Homme. Et ils seraient restés statiques. Eux ne sont pas restés statiques. Ils se sont laissés saisir par l'Esprit Saint, par une recherche, une quête de la sagesse. Noël est donné en vue des hommes. Cet enfant, c'est pas seulement pour se faire vénérer. Cet enfant, c'est un don, c'est un cadeau. Et ce cadeau, ça s'appelle le salut. Et le salut, il est doux, il est beau et il est facile à approcher comme l'est le salut de Dieu. C'est au milieu de la nuit que les mages, comme les bergers d'ailleurs, viennent. Et la nuit, c'est le lieu où la lumière vient comme un miracle. La nuit, c'est le néant, c'est le rien. La nuit, c'est la mort. Et un monde qui n'est pas sous l'emprise de la lumière, sous la souveraineté de la lumière, eh bien, est un monde qui gît dans les ténèbres du néant, du rien. Ah, certes, on est comme au Shéol, comme des ombres. Vous voyez, des hommes qui n'ont pas d'idéal, ou qui se trouvent dans une espèce de découragement, dans une sorte de fatigue perpétuelle. Ils bougent dans tous les sens, mais sans jamais aller quelque part. Ce sont des ombres comme au Shéol, le Shéol de l'Ancien Testament. Un monde où n'est pas la lumière, et la lumière c'est Jésus, c'est Dieu, et bien ce monde-là est un monde sans force, sans joie, sans un monde vide de valeurs. Parce que les valeurs sont des reflets de la lumière, de la volonté de Dieu. Le cheminement des mages leur a donné un sens de la vie. C'est cette lumière apparue dans les ténèbres qu'ils scrutaient, eh bien, leur a donné sens. Sens pour marcher. Vous voyez, c'est le contraire du nomadisme existentiel contemporain, un nomadisme aveugle. Qu'est-ce que c'est que ce nomadisme? C'est l'absence de valeur. Les sociétés contemporaines, occidentales, vides, toutes les nations de leur patrimoine de valeurs morales ou culturelles simplement. Et elles transforment les hommes en espèces de nomades qui bougent d'un objet à un autre, d'une satisfaction à une autre, mais sans jamais trouver un lieu où reposer véritablement leur cœur. C'est le monde sans foi. C'est un monde où on bouge sans fin, précisément. Un monde où on se déplace pour aller travailler, on s'installe parce que l'entreprise qui va nous engager ou nous a déjà engagé veut qu'on aille travailler à tel endroit, etc., etc. Et le nomadisme, et on trouve une vie standard partout où on s'installe. C'est le rêve de la modernité. Mais ça, c'est pas cheminer vers la vérité comme l'ont fait les mages. Ça, c'est tourner en rond indéfiniment comme les ombres du Shéol. Alors oui, le Christ est la lumière du monde, la lumière que les hommes attendent. Mais encore faut-il, certes, que le Christ leur soit annoncé, qu'une étoile apparaisse, mais qu'ensuite, eh bien, ils se mettent en route, en acceptant de ne pas tout avoir tout de suite. Et alors, brillera le Christ aux yeux des nations.